Je voudrais aussi vous féliciter pour enfin cet acte que vous avez pris en vous mettant à part. C'est important de pouvoir enfin réfléchir sur le mariage. Beaucoup sont dans le mariage, mais beaucoup ne vivent pas le mariage. Plusieurs sont déjà divorcés, mais tout en étant ensemble. Quand il y a des problèmes dans le foyer, l'Église aussi ne peut pas marcher. Si les gens sont divisés dans leur foyer, on ne peut rien attendre d'eux dans l'Église. Et on se plaindrait que personne ne travaille. Si personne ne travaille chez lui, comment pourra-t-il venir travailler à l'Église? Si quelqu'un est distrait chez lui, comment pourrait-il penser aux choses de Dieu? Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions réfléchir. Et je crois, comme Papa Ilonga l'a dit, nous aurons à parler de la part du Seigneur et ça vous fera quelque chose. Je voudrais également remercier le Seigneur parce que j'ai une très belle femme. Une très belle femme qui m'aide et qui me soutient dans le travail depuis très longtemps. Elle est la cadette, mais c'est une grande femme. Nous avons 17 ans de mariage et nous avons 7 enfants. Deux filles seulement et 5 garçons. Nous n'avons pas encore arrêté. Les derniers ont 4 ans et nous avons dit au Seigneur, si tu veux que quelqu'un d'autre vienne, il viendra. Peut-être que ça sera celui qui va sauver les aïeux, on ne sait pas. Amen. Alors, je voudrais vous informer que je suis accompagné par un conseiller conjugal, le réparateur de brèche, et tout à l'heure, quand je suis entré, vous ne l'avez pas salué. Est-ce que vous le connaissez?
Oui.
C'est grand conseiller conjugal, c'est réparateur de brèche. Alors, si vous le connaissez, vous l'aimez, je vous prie de le saluer. Au revoir à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est celui-là qui m'accompagne et pendant que vous le saluez, il me dit je suis content. Mais il me dit une chose, moi on ne me salue pas ainsi. Parce que je suis le roi des rois. Et quand on me salue, ça doit être debout, on l'acclame très fort. Adieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Maintenant, il me dit, je suis content. Vous pouvez vous asseoir. Il est très content. J'espère qu'on m'a donné 2 heures. Et par la grâce de Dieu, je crois que peut-être j'y arriverai. Et je terminerai. Mais ma prière, je voudrais que nous puissions être attentifs. Vous n'avez pas perdu votre temps pour venir contempler un homme en ces lieux, non. C'est pas que vous êtes oisif ou vous n'avez rien à faire. Et enfin, dans vos temps de loisirs, vous êtes venu en ces lieux, non. Je crois, si vous êtes sincère. Vous avez dit, Seigneur, nous avons cheminé. Ne tenez pas compte de temps de mariage. La plupart qui ont fait longtemps, leurs mariages ne sont pas heureux. Ils vivent chien et chat dans les maisons. Non, mais on a fait déjà 40 ans. Mais quels 40 ans de mariage? Peut-être qu'ils n'ont vécu que 6 mois de mariage. Et que peut-être certains vont refaire leur mariage en ces lieux, malgré le nombre d'années passées. C'était de nombre passé sans Dieu. Où on croyait qu'on est avec Dieu. Et c'est le sujet que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous aurons à partager. Que chacun soit attentif. Dans une réunion, après qu'un prédicateur ait parlé, 2 personnes se sont présentées, une grande femme et une jeune fille, pour féliciter l'orateur. Mais écoutez, ah mais ça a été très bien, monsieur l'évangéliste, c'était très très bien. Si ma belle-fille ne se convertit pas, c'est qu'il n'a pas entendu la parole. Quelques minutes après, c'est la jeune fille, oh monsieur le prédicateur, ça a été très très bien. Si ma belle-mère ne se convertit pas, je ne sais pas. Je voudrais poser la question. Les deux ont-ils été concernés par la parole? Oui, mais ils n'ont pas voulu le reconnaître. Généralement, nous voyons seulement l'autre. Il dit, mais je crois que ce qu'on dit là, c'est pour le foyer des tels. ça doit être le foyer. Ça, ça c'est pas mon foyer. Je voudrais pas que ça soit aussi à la fin du non, c'était très bien, mais sans que ça puisse faire quelque chose dans votre foyer. Crois que tu es seul avec ton couple dans cette salle et que c'est à toi que Jésus-Christ s'adresse à travers moi. Même si tu connais les problèmes d'autres foyers, mais regarde, est-ce que sur mon foyer, on parle de moi? Que dois-je faire? Dans Psaume 119, verset 57, la Bible déclare, « Seigneur, ma part, c'est de garder ta parole. » La part que nous avons chacun, c'est de garder la parole de Dieu et non pas voir ce que l'autre a gardé. Le rôle du pasteur, c'est celui-là. Le rôle des anciens en tant que surveillants, c'est celui-là. Mais moi, quelle est ma part? Nous lirons deux textes. Dans Proverbe 18, j'ai béni le Seigneur, je vois que c'est votre sujet de méditation demain matin, mais je vous en parle déjà maintenant. Proverbe 18, verset 22, nous lirons deux textes. Proverbe 18, verset 22, nous lisons. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La même phrase lue dans français courant, ça parle encore mieux. La Bible déclare, celui qui trouve une compagne trouve le bonheur. C'est un cadeau que le Seigneur lui fait. Un cadeau de la part du Seigneur. Le deuxième texte, toujours dans Proverbe, Proverbe chapitre 5, les versets 15 à 20, nous lirons seulement dans français courant. Proverbe 5, versets 15 à 20, dans français courant, nous lisons. Ta femme est comme une source d'eau pure. Bois à cette source. Ne laisse pas ton eau couler dans les rues et se disperser sur les places publiques. Qu'elle soit pour toi seule. Ne la partage pas avec des étrangers. Réjouis-toi toujours de vivre avec celle que tu as choisie dans ta jeunesse. Et rends-la heureuse. Je répète. Et rends-la heureuse. Ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle. Que son corps te comble toujours de joie. Sois sans cesse heureux de son amour. Sois sans cesse heureux de son amour. Mon fils, pourquoi aurais-tu envie de la femme d'un autre? Pourquoi chercherais-tu le plaisir auprès d'une femme qui n'est pas la tienne? Amen. Bien-aimés, en lisant les premiers textes, le Seigneur nous dit, pas celui qui nous parle, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est un cadeau que le Seigneur lui a accordé. Mais la réflexion de tout le temps, est-ce que réellement, tous ceux-là qui sont mariés, même vous qui êtes présents, est-ce que vous avez réellement reçu le bonheur? Généralement pas. Dans les textes qu'on vient de me donner, peut-être c'est un travail qu'on a fait, on dit sur 12, il n'y a que deux seulement qui vivent véritablement heureux. Vous avez ce papier. Et c'est ça la réalité. Et c'est essentiellement chez des chrétiens et même des serviteurs des dieux, pasteurs, évangélistes, diacres, anciens, leurs ménages sont minables. Ils ne sont pas heureux. Alors nous devons réfléchir et nous poser la question, qui trompe? Est-ce Dieu ou c'est l'homme? Parce que Dieu a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est un cadeau que je lui ai fait. Mais généralement, on ne trouve pas le bonheur. On n'est pas heureux. Dans le deuxième texte, on nous dit, bois l'eau de ta source. Ne la répands pas à l'extérieur. Pourquoi vas-tu envier la femme d'autrui? Il y a beaucoup de gens, même serviteurs, qui vivent avec des femmes d'autrui dans leur cœur. Ils disent, si j'étais au moins avec celle-là, je crois que j'allais réussir. Erreur. Peut-être avec celle-là, ça allait être pire. Parce que tu la vois de l'extérieur. Si tu n'arrives pas à maîtriser celle que tu as ou celui que tu as, qu'est-ce que tu prouves? Qu'est-ce qui te prouve avec tel homme ou avec telle femme tu vas être heureux ou heureuse? Alors nous nous posons des questions, j'y ai réfléchi, j'ai réfléchi assez souvent et j'ai déjà trouvé la réponse, celle que je vais partager avec vous. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bonheur? Pourquoi les hommes ne sont pas heureux? Pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas heureuses? Est-ce que le Seigneur a changé? On dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais si tel est le cas, pourquoi dans vos mariages? Pourquoi nous ne sommes pas heureux? Pourquoi nous n'avons pas le bonheur? Et ça, nous le recevons de plusieurs femmes, de plusieurs hommes avec qui on cause, avec qui on parle. Et ici, je l'ai reçu mardi passé, ça m'a fait mal au cœur et j'ai pleuré pour enfin des gens serviteurs de Dieu. Mais le mariage minable, foutu. Et quand tu entends la femme parler, le mari, il est serviteur de Dieu, il dit alors voilà pourquoi ça ne peut pas marcher. Pourquoi les églises ne peuvent pas marcher? Si celui qui dirige l'église, il a une vie minable dans son foyer, qu'est-ce qu'il va transmettre? On ne peut donner que ce qu'on a. Et il disait à cette femme, alors ton mari, qu'est-ce qu'il enseigne quand il est devant les gens? Et si on lui pose telle question, beaucoup de serviteurs nous mentons. Pour faire plaisir. Mais nous oublions qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il va récolter. Si vous avez semé des arachides, ne vous attendez pas au manioc, au maïs. Vous dites, oh non, j'attends les femmes ne sont pas heureuses. Je voyais un jour à la télévision, les gens qui descendaient. Et ça, c'est une réflexion que je me suis faite. Les hommes avec leurs femmes. Puis on voit l'homme qui tend la main à la femme. Je veux bien le mouvement. Il tient, il tend, la femme fait comme ça. En d'autres termes, ça c'est moi qui ai déduit. Est-ce que tu veux seulement me tenir à la main ici publiquement? Quand nous sommes à la maison, est-ce que tu me tiens à cette main-là? Ça c'est moi qui ai déduit et c'est la vérité. Quand nous sommes à l'église ou nous sommes dans des réunions comme celle-ci, peut-être on nous a obligés que la femme soit à côté. Ce n'est qu'une obligation. Mais quand vous rentrez, vous revenez dans votre situation de tous les jours. Vous savez, moi, je suis bien éduqué. Hein? Mon père et ma mère ne se mettaient pas ensemble. Alors, prière de ne pas... Enfin, vous savez, vos histoires là d'église, ça devient nos histoires d'église. Mais il faut comprendre, hein? Nous avons des coutumes. J'étais quelque part où une femme, pour parler à son mari... J'étais venu, j'étais pressé avec un problème. Oh non, pasteur, attends un peu, tu vois, nous les femmes, nous chez nous, nous sommes comme les juifs. Là où il y a les hommes qui se réunissent, nous ne pouvons pas nous approcher. On attend qu'ils m'appellent. Il dit, maman, mais moi je suis pressé, c'est lui qui m'a fait venir. Alors pour parler, l'homme était là, à 4 mètres. Tout fier là, la femme parle tout en s'inclinant. Alors je regarde, mais c'est pas possible. Puis il vient. Et dès que la femme et l'homme est venu, la femme se retire. Nous sommes restés en train de parler avec les hommes. Et ils sont dans les églises. Nous mentons assez souvent. Et je l'observe à l'église quand les gens entrent. C'est à l'entrée, vous voyez comment l'homme et la femme se séparent. Ils viennent ensemble. Si c'est la femme qui avait la Bible, il donne à l'homme. L'homme prend un air très sérieux comme un cadavre. Eh bien, il s'en va ailleurs. Et l'homme aussi, la femme s'en va ailleurs, tout sérieux. Dans le cadre des principes et du respect. Mais dans l'entretemps, le foyer est détruit. Alors je reviens pour me poser la question. Est-ce que Dieu a trompé? Non. Alors j'ai vu qu'il y a deux raisons essentielles. Je voudrais que nous puissions retenir ces deux raisons. Et que chacun puisse réfléchir, parce que vous êtes retiré pour méditer, pour réfléchir. Et ici, soyez sincères. Ne trompez pas Dieu, il vous connaît, même dans le moindre détail. Deux raisons essentielles auxquelles je réfléchis. La première raison, c'est dans le choix du conjoint. Comment le choix a été fait? C'est la première raison importante. La deuxième raison, c'est comment est-ce que ce conjoint chrétien, je m'adresse aux chrétiens, vivent la vie chrétienne dans leur mariage. Pour que ces principes de Dieu, ces principes immuables puissent enfin se réaliser. Deux choses. Le choix du conjoint. Et deuxième chose, comment ces conjoints chrétiens vivent leur vie dans le mariage, la vie chrétienne, comment est-elle vécue? Nous aurons à développer ces deux points. Ma prière est que chacun se retrouve, que chacun ne me regarde pas. Que chacun ne regarde pas sa femme pour dire est-ce que tu as entendu, c'est toi. C'est comme ça que tu as toujours été, mais regarde d'abord, mais est-ce que moi, qu'est-ce que je peux faire? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais généralement, on ne le vit pas. Deux raisons. Il y en a plusieurs, mais je n'ai pris que ces deux-là. Pour que nous puissions parler en fonction du temps qui m'a été accordé. Abordons le premier problème sur le choix du conjoint. Sur le choix du conjoint, il y a également deux points, peut-être trois, que j'ajouterai, mais je veux parler des deux essentiellement. Il y a deux sortes de choix. Vous allez vous demander, mais comment le pasteur parle du choix? Nous sommes déjà mariés. Est-ce qu'il veut qu'on puisse divorcer? Non, je ne vous demande pas de divorcer. Je vous ai dit que j'ai amené les réparateurs de brèches. N'est-ce pas? Il va réparer. Même si le choix était mauvais, c'est pour ça qu'il est là. Il vous attend. Parce qu'il est prêt. Après que vous ayez mis cet temps à côté, il est prêt pour réparer, mais à une seule condition, que vous puissiez reconnaître. Il ne viendra jamais faire votre travail. C'est vous-même qui devrez faire votre travail. Si c'est embrasser votre femme, vous ne verrez jamais le Saint-Esprit venir embrasser votre femme. Jamais. Vous lui demandez, Seigneur, donne-moi l'amour. Il vous donnera l'amour. Mais pour embrasser la femme, il ne viendra jamais. Il n'y a que Marie, il n'a pas été embrassé, mais ça s'est fait automatiquement. Mais vous, il faut que vous puissiez vous approcher de votre femme, de votre mari. Alors ne pensez pas, mais les choix, on est déjà mariés, ne pas des histoires qui sont déjà passées. Non, ces histoires sont encore d'actualité. Et ne prenez pas à la légère, bien-aimé, j'insiste. Deux sortes de choix. Un choix que j'appelle selon l'apparence. Un choix selon l'apparence. Un choix, le deuxième que j'appelle, selon Dieu. Le choix selon l'apparence, c'est quel choix? C'est le choix qui est fait selon la beauté de la fille. C'est vrai, il faut voir que la fille est belle. Ou la femme, le garçon, il est beau. Parce que sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Si la fille ou la femme n'est pas belle, ou le mari n'est pas beau, alors quand tu y as des gens à présenter, on dit, monsieur, où est votre femme? Alors qu'il y en a cinq, tu vas seulement pointer la main, dit, elle est là. Alors il y en a cinq, on ne sait pas laquelle. Tu dis, mais où est votre femme? Elle est là. Et quand tu la regardes seule, tu hoches les épaules, tu dis, je ne sais pas, elle est là. C'est ainsi que beaucoup de gens divorcent. Parce que les choix étaient mauvais. C'est un choix égoïste. Ils cherchent maintenant les femmes qui parlent français, alors qu'ils se sont mariés à Campanda, la femme ne parlait pas français. Alors maintenant qu'il doit changer les choses, il dit, mais maintenant, que dois-je faire? Il faut changer. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix. C'est les tiraillements, et même les tiraillements qui se suivent de génération en génération. C'est selon peut-être les richesses L'apparence, on dit, bon, c'est une famille quand même riche. Si notre fille ou notre garçon entre là, je crois que quand même ça sera un couple heureux. Mensonge. Erreur. Combien on donne de frigos ou combien on donne de maisons un mois après divorce? Ça, c'est le choix selon l'apparence. Soit selon le coutume. Là, j'attire l'attention, bien-aimé des frères. J'insiste et je ne cesserai d'insister là-dessus. Le mariage selon le coutume, frère. Vous qui priez. M'excuserai de citer certaines régions. M'excusez vraiment, frère. Excusez-moi, je ne sais pas si ça va choquer les gens à Kinshasa, mais j'en parle. En Bujuma et à Lubumbashi, ou partout, et surtout à Kinshasa. Les mariages se font selon le coutume. On a chez nous le Bakongo, il faut se marier ceci, il faut se marier ceci, il faut se marier, il faut faire la facture. C'est bien. Mais ça vous avantage à quoi? Vous êtes du côté de Dieu, vous êtes du côté de votre tribu, de vos coutumes. Et quand ça va créer des problèmes, est-ce qu'on vous garantit que le mariage entre les gens d'une même région, on vous garantit que ça réussit toujours? Est-ce qu'on ne voit pas les gens d'une même région, d'une même tribu qui divorcent, frères et sœurs? Oh non, nous les enfants, nous voulons pas qu'on le marie en brousse. Vous les frères de Kassa, vous exagérez quand même. Comment vous appelez les autres si c'est en brousse? Oh non, comment notre enfant peut être marié par un forestier, quelqu'un qui ne... Vous exagérez. Mais tout en étant à l'église, tout en priant, dis non, nous avons eu un cas à Lubumbashi. Les garçons du Kassai, la fille de l'Équateur, les papas se commandent, non, vous savez, les garçons, on verra, d'ici là, ils vont se marier. Alors, vous savez, parfois, quand les choses deviennent dures, nous prenons la résolution. Quand c'est un problème tribal et que les seigneurs nous convainquent que le mariage doit avoir lieu, nous marions les filles et les garçons. Nous les marions. Alors nous avons dit, papa, tu te décides. La maman chante à la chorale. Ce sont des choses terribles que vous faites, vous les chrétiens. La maman chante à la chorale. On a essayé de suivre. Puis le papa qui nous dit, comment expliquer que mon enfant va aller se marier avec une fille de la brousse? Je dis, mais le Osaïre, c'est en brousse. Hein? Non, je ne peux pas. Nous avons dit, papa, hein, si c'est ça la raison, nous nous marions les enfants. L'église doit prendre ses responsabilités. Nous les avons mariés, maintenant ils ont deux enfants. Amen. Ils ne venaient nous voir, oh vous dites que c'est votre enfant. Est-ce que quand j'étais à la maternité, l'église était là? Oui, à la maternité, l'église était là. Parce que si Dieu n'était pas intervenu à la maternité, tu n'allais pas accoucher, tu allais mourir. L'église était là. Mais alors pourquoi vous demandez qu'on prie pour vous quand vous êtes grosse? Puis quand vous accouchez, vous dites non, est-ce que cet enfant appartient à l'église? Quand j'étais à la maternité, c'est l'église qui était là. Oui, nous étions là. Amen. Oh voilà, chez nous, il faut que ceci, il faut cela. Les mariages selon le coutume. Ça c'est le mariage, le choix selon l'apparence. Votre garçon s'est marié à Lubumbashi, à quelqu'un du Chab, oh non, comme Kung nous a insulté, quand il rentre ici, vous donnez quelqu'un de Bandundu, de Mbandaka, au lieu de chez vous. Tout en étant à l'église, oh vous savez, chez nous, nous avons nos coutumes, nous avons, c'est bien vous avez vos coutumes, mais quelles sont les coutumes de Dieu? Parce que vous dites que non, nous sommes chrétiens. D'ici quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, donc les choses de coutumes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand il faut signer des factures, vous signez. Une fille m'a vu ici. Nous prions pour le mariage. Mais le papa demande qu'on donne 2000 dollars. Il dit, mais pasteur, mais comment? Et en plus, savez-vous, les autres, les gens des autres cas là, je ne cite pas les noms, vous exagérez. Est-ce qu'on discute la dot pour refuser? Les gens donnent ce que la première fois qu'ils sont venus, ils ont donné quelque chose. Je ne prends pas. Il faut le 2000 dollars ici. Il a jeté. Et les gens sont repartis avec ça. Alors après, vous nous demandez qu'on prie pour vos filles. Vous nous demandez de prier pour elles. On ne prie pas. On dit, allez les marier selon vos coutumes. Oh, chez nous, quand on fait comme ceci. Et il y a d'autres qui n'ont jamais été chez leur fille ou chez leur fils. Littéralement, j'ai traduit. Parce qu'il faut que celui qui doit venir de Kabakabanga vienne piétiner à la maison. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore piétiné, si je pars, la fille va mourir, la fille ne va pas au monde. Qu'est-ce qui vous a dit qu'il ne va pas mettre au monde? Oh non, chez nous, on nous a dit qu'il ne faut pas se laver chez la belle-fille parce qu'on va lui accorder la malédiction. Mais si vous êtes dans un quartier où le voisin n'a pas d'eau pendant un mois, vous allez vous laver ou vous allez rentrer chez vous? Si ce n'est pas selon les coutumes, selon les amis. Oh bon, les amis m'ont dit que... Vous savez, ça c'est selon le choix de l'ami. Et quand l'ami là va courtiser la femme par la suite, est-ce que vous allez le condamner? Pas celui qui a apprécié à votre place. Ayez en fait maintenant le temps de réfléchir comment ça a été. C'est peut-être ça qui vous cause des problèmes maintenant dans votre ménage. Maintenant vous commencez à cacher la femme dans la maison. Vous commencez à interdire à l'ami, il ne faut plus venir ici. Mais c'est lui qui était parti parler. Il a baratté la fille à ta place. Toi, tu ne savais pas parler. Le mariage selon l'apparence. Ou bien ce sont les voisins. Généralement, on demande aux voisins, comment est-ce que cette fille-là, est-ce qu'elle est bien? Apparemment, elle est bien, mais la sorcellerie, si elle est dans le cœur, est-ce que les voisins savent ça? Une fille m'a dit à Lubumbashi, pour qui j'ai prié, dit, pasteur, je paraissais chez nous être une belle fille, une bonne fille également. Dans le quartier, on croyait que j'étais une bonne fille. Mais quand mes parents partaient me laisser la maison, je m'enfermais avec des garçons chez nous. Mais apparemment, c'était une bonne fille. Mais elle-même témoigne maintenant. Disons que je n'étais pas une bonne fille. Mais apparemment, on croyait que c'était une bonne fille. Ou encore, ici, je voudrais que nous puissions réfléchir. Le choix fait par les parents, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais quels ont été les critères? Vous qui avez vu la fille, ou vous qui avez vu les garçons, quels ont été les critères? Faites-vous, vous avez apprécié les jambes. Mais est-ce que votre garçon va apprécier les jambes? C'est peut-être ça qui est à la base. Quand votre père avait choisi votre femme que vous avez maintenant, il avait regardé les jambes. Et toi, ce n'est pas les jambes qui te plaisent, c'est le nez. Mais il est gros, ça ne t'intéresse pas? Alors quand tu regardes le nez, dis ça. Cette histoire que papa m'a envoyée, je ne sais pas. Alors pour ne pas avoir la malédiction dans la famille, je l'accepte quand même. Et tu ne peux pas vivre le bonheur. Tu ne peux pas. Les parents, faisons attention dans les choix. Parce que c'est nous qui apprécions. Nous voyons comment elle marche. Tu nous sais, si je vois quand même pour mon fils, ça peut aller. Rien derrière, bien là, c'est bien. Mais ça, c'est toi qui vois. Mais quels seraient les critères de garçon? Par la sagesse humaine déclare, toute femme est belle devant celui qui l'aime. Une femme, la femme d'un pasteur, disait qu'elle aime son mari à cause de... Vous voyez les petits moustaches qu'on laisse un peu ici. Alors, les maris rasent partout, mais seulement les petits, là, disent, c'est ce que j'aime. Est-ce que les papas allaient savoir ça? Qu'elle allait aimer ces petits bouts-là qu'on laisse des cheveux ici? Non. Amen. Alors ça dépend. Il faut faire attention. Oh non, nous avons déjà été sur la route de Mouenéditou. Nous savons là où il y a des courbures, là où... Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Oh non, vous comprenez, nous avec comment ça s'appelle, le matriarcat ou je ne sais pas quoi.
Occupez-vous de votre femme d'abord. En priorité.
Quand il y a un choix à faire, mon petit frère est là, ma femme est là, d'abord ma femme. Je ne choisis pas mon petit frère. Quand les gens vont voir mon petit frère bien habillé, ma femme en lambeau, on va dire, ah, cet homme il est bien, voilà, tous ses petits frères sont bien habillés. On va dire ça, hein? On dit, c'est un irresponsable. Regarde comment sa femme est à lambeau, mais ses frères lui-même bien tirés. D'abord, moi j'habille bien ma femme d'abord. Je préfère avoir même un costume, mais ma femme bien habillée. Tous mes efforts, je concentre sur ma femme parce que je n'en ai pas deux. Je n'ai que celle-là. Faut même pas que je commence à regarder d'autres, la mienne. Non, c'est ce que je promène avec elle partout. Comme ça, je, quand je vais rincer l'œil, c'est avec elle, je regarde bien. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'ai un peu d'argent, c'est d'abord elle. Pas quelqu'un d'autre. On m'a dit que je dois quitter. M'attacher à qui? Pas à mon frère. m'attacher à qui? À ma femme. Et devenir une seule chair. Relisez bien Ephésiens 5, vous verrez que la tâche que Dieu nous recommande, ce n'est pas les femmes qui doivent faire ça. Quand on dit soyez soumises, non, c'est nous qui devons travailler. Lisez bien ce verset-là. Vous verrez que c'est l'homme qui doit travailler. On dit que Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Église? Il l'a sanctifié après l'avoir purifié pour se la représenter irrépréhensible, sans tâche. C'est, donc, la femme, je la travaille, je me la représente moi-même, sans tâche, sans ride, irréprochable. Donc, c'est, à ce moment-là, elle sera soumise. Mais tu ne l'as pas travaillé. Je remarque, toi, tu es bête comme tes pieds. Toi, tu es infirme. Hein? Toi, tu es inapte. Mais comment ça va couper les dialogues? Amen. Ça va couper les dialogues, frère. Les remarques, comment sont-elles faites? Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on nous dit de pardonner. Est-ce qu'on pardonne celui qui nous fait du bien ou qui nous fait du mal? Elle va ça jusqu'à destination. C'est là la charge que nous avons, et pour la femme et pour les frères. Je supporte, ça me fait mal, mais je dois arriver à destination. Je dois dire au Seigneur, Seigneur, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Avant que je sois arrivé, je supporte. Ça fait mal, mais je supporte. Ne crois pas que quand on pardonne, ça n'en fait pas mal. Ça fait mal. Quelqu'un qui vous a laissé avec un enfant sous les bras, maintenant lui, il est marié, avec une belle femme, avec une voiture, vous vous laissez avec l'enfant, on vous demande qu'il faut pardonner. Ça ne vous fait pas du mal, ça fait mal. Je lisais un livre, Orphelin au cœur brisé. Un monsieur, en Angola, les témoignages. Un monsieur qui a perdu son père. Et qui avait tué son père, un policier. Et il avait dit, comme j'ai souffert, eh bien, partout je verrai ce policier, je vais le tuer. Et il a grandi, il s'est converti. Il est resté dans le même village. Il est devenu évangéliste. Et il prêchait dans un village voisin. Pendant qu'il faisait l'appel, il n'y a eu qu'une seule personne qui a levé la main. Imaginez-vous la personne. Il lève les yeux, c'était le policier. Le diable nous rappelle beaucoup de choses. Tout ce qu'il avait dit quand il était enfant, les souffrances qu'il a endurées, ça lui revient. Alors maintenant, la lutte. Mais tu avais dit que quand tu le verrais, tu le tuerais. Maintenant, tu ne peux que descendre. Il est là maintenant. Dieu lui dit qu'il faut pardonner. Dans les livres que je lisais, il est resté pendant 5 minutes sans parler. Peut-être les gens croyaient qu'il priait. Non, il ne priait pas. Il luttait dans son cœur. C'est une lutte. Puis la personne est descendue, a appelé l'autre. Dès qu'il lui a imposé les mains, tout le village s'est converti. Parce qu'il connaissait l'histoire. Amen. Le pardon, ce n'est pas facile. Prêcher, c'est facile. Mais vivre ça, avec la grâce de Dieu. C'est pour cela que vous êtes appelé à pardonner. On dit, la femme m'a fait ça, je pardonne. La femme m'a humilié. Vous savez, moi, j'ai pu tout supporter, sauf insulter ma mère. Mais, pardonnez. Là, c'était votre mère, mais qu'est-ce que ça fait? Surtout vous les autres, là aussi, les cas. Hein? Il dit, j'ai pu tout pardonner, sauf insulter ma mère. Je vais vous lire un verset. Et ce verset-là, si vous le lisez bien, nous sommes obligés à pardonner. Nous sommes obligés. 2 Corinthiens. Chapitre 2, versets 10 à 11. Vous allez bien entendre que nous sommes obligés. C'est une obligation. 2 Corinthiens 2, 10 à 11, nous lisons. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Écoutez bien, pourquoi pardonner? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Pourquoi on doit pardonner? Pour ne pas laisser à Satan l'avantage. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Quand il nous attaque, est-ce qu'il nous pardonne? Non, il nous détruit. Là, nous sommes obligés. Si vous voulez aller plus loin, et avec votre ménage, et avec votre vie chrétienne, sans pardonner votre femme, votre mari, votre belle-mère, votre beau-père, votre beau-frère, belle-sœur, eh bien, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous êtes entre les mains du diable. Nous sommes obligés. Parce que vous n'ignorez pas ces desseins. On dit dans la Bible que les diables rôdent autour de nous cherchant qui dévorer. Et Éphésiens 4, 26, 27 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Comment on peut donner l'accès? Par manquer de pardon. Et quand il s'installe, votre foyer détruit, les affaires de masse, vous ne savez pas. Non, ce que cette femme a fait, je ne peux pas. Ce que cet homme a fait, je ne peux pas. Je puis tout sauf ça. Il pouvait tout faire, sauf insulter mon père, sauf insulter ma mère. Il faut pardonner. Et quand vous n'y arrivez pas, même, je vais vous donner quelque chose. Quand vous n'y arrivez pas, dites à Dieu ceci. C'est ce que tu m'as dit là de pardonner. Moi, je n'y arrive pas. Voilà ce qu'il m'a fait. Ça, je n'arrive pas. Mais parce que tu m'obliges et que les gens ne puissent pas prendre le dessus sur moi, donne-moi la capacité de pouvoir pardonner. Amen. Puis vous essayez. Sentez, non, je n'ai pas pardonné. Vous revenez encore. Seigneur, je n'ai pas. Quand je l'ai vu là, j'ai encore vu. Je ne sais pas, dans mon cœur, il y a des histoires, je ne peux pas. C'est une lutte. Jusqu'à ce qu'un jour vous sentiez, vous dites, oh, alléluia, gloire à Dieu. Ne faites pas le pardon. J'ai pardonné, mais je n'aime plus le voir. Non, là, vous n'avez pas pardonné. Le pardon, ce n'est pas un trou de mémoire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un trou de mémoire. Je sais que le frère musulman m'a insulté. Mais j'ai pardonné. Quelles sont mes réactions? Quand je vais agir, je n'agis pas en tenant compte de ce qu'il m'avait dit. Je dis, non, vous savez, je pouvais bien lui donner ce poste, mais comme il m'avait insulté, donnant à quelqu'un d'autre, là, vous n'avez pas pardonné. Non, non, mais c'est un type bien, responsable. Donnons-lui ça, il peut bien faire. Je ne reviens pas. La Bible déclare que Dieu, si vous lisez dans Ésaïe 31, verset 33-34, on nous dit que je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Dieu a pardonné, Dieu a oublié. Mais ce n'est pas un trou de mémoire, j'insiste bien. Quand vous pardonnez votre femme, ce n'est pas un trou de mémoire. Quand vous pardonnez votre mari, ce n'est pas un trou de savoir qui t'a fait ça. Savoir qui t'a insulté, ça vous le savez. Mais quelle est votre réaction? La réaction est-elle conditionnée par ce qu'il avait fait là? Est-ce que vous gardez quelque part? Eh bien, vous qui avez pris les femmes qui ont commis l'adultère, il faut réellement pardonner. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas dire, bon, chaque fois, et même si j'ai fait avec vous ici, je ne sais pas si vous n'avez pas encore commis. Vous savez, ce n'est pas une grâce que vous lui avez faite, hein? C'est pour vous-même, ce n'est pas pour elle. Ou vous dites, non, comme Dieu m'a dit que je puis faire partie. Dis, Seigneur, je ne serai pas en mesure. Comme tu m'as donné une ouverture, qu'elle peut partir à cause de ça, d'accord, je la fais partir. Mais vous dites, non, le Seigneur m'a aussi donné l'ouverture de pardonner. Je pardonne, je reste avec, il ne faut plus revenir. Ou vous l'avez trouvé, elle avait déjà connu les hommes, vous avez pardonné. Puis d'ailleurs, vous savez que vous avez trouvé, vous avez connu les hommes. Non, il ne faut plus revenir. Il fallait, dès le premier jour que vous avez vu, vous la faites partir. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Est-ce que vous comprenez? Mais il ne faut plus revenir, c'est le troisième point qu'on verra tout à l'heure. Oh, j'ai pardonné, mais d'ailleurs, il faut vous tenir Non, ce n'est pas une grâce que vous lui avez accordée. C'est pour votre propre vie. Si du moins vous êtes chrétien et que vous craignez Dieu. Un petit rien. Oh, d'ailleurs, c'est comme ça. Vous, si vous avez, je vous ai déjà pardonné, mais vous continuez toujours. La même personne que vous avez vu avec. Vous pardonnez ou vous ne pardonnez pas. Amen. Ce qui fait le troisième point. L'amertume dans le cœur, ça casse les dialogues. L'amertume dans le cœur. Eh bien, il s'agit de plusieurs fautes, plusieurs erreurs que l'homme ou la femme a emmagasinées dans le cœur. Il n'a rien dit. Ça va? Oui, ça va. Mais dans le cœur, il garde. C'est ça l'amertume. Plusieurs choses, plusieurs blessures. Et là, les femmes, comme les hommes aussi, en souffrent. Peut-être les femmes croient que nous aussi, les hommes ne sont pas blessés. Non, les hommes sont aussi blessés. Quand c'est souvent l'homme, la femme repousse son mari, regardez bien. Et même sur le plan de la virilité de l'homme, si chaque fois il est repoussé, eh bien, il n'est plus virilant. Ça marche sur le mécanisme. Ah, autant je t'exagère toujours. Non? Comme il doit chercher la paix, il se calme. Le lendemain, attends, je t'exagère, laisse-moi. Tu vois pas que je suis fatigué. Il se calme. Il a sauté une première fois, une deuxième fois. Il dit, ah, tu exagères, tu crois que je suis une machine. Ça frappe sur les nerfs. L'homme n'est plus virulent. Vous êtes responsable. Un pasteur a demandé, Seigneur, rends-moi impuissant. Ah oui, dépassé. Il pouvait faire 3 mois, 6 mois sans bouger. La femme dit, mais tu vois pas que je suis fatigué. Et ce que je dis ici, je l'ai vécu ici à Kin. Je vous ai dit, j'ai parlé avec la femme d'un serviteur. Et il me dit, non, pasteur, comme il exagère, ça fait 3 mois, je ne le connais pas. Quand il m'approche, je dis, pas question. Elle dit, mais ma soeur, mais comment voulez-vous? C'est pourquoi il est tout le temps nerveux. 3 mois. Il dit, non, il exagère, je ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? L'amertume dans le cœur, ce sont les fautes, les erreurs gardées. Elles surgissent quand c'est là. Quand tu as divergence de vue, on n'est pas d'accord sur un point, alors on rebobine. D'ailleurs, tu as fait ceci, j'ai pardonné. Tu as fait ceci, j'ai pardonné. Tu as fait cela. Maintenant encore, non? Rappelle notamment la bateau, la coquine. Donc, c'était quelque part emmagasiné. Quand on entasse, finalement, ça fait quoi? Ça éclate. Beaucoup de menaces, c'est ça, les amertumes dans le cœur. Et on ne peut pas vivre la vie chrétienne normale. Dieu nous a pardonné une seule fois pour toutes, il ne revient jamais. Si tu as pardonné, ça t'a fait mal, pleure. Mais pardonne, ne reviens pas. Parce que si tu dois revenir, comme il y avait une femme à Lubumbashi, elle avait un agenda. Elle notait tout. Quand tu as un problème, elle prend l'agenda. Non pas pour voir les dates, mais pour rappeler à son mari. Telle date, tu avais fait ce sujet, pardonné. Tel jour, tu as fait ce sujet, pardonné. Tel jour, tu as fait... Mais encore, non, pour cette fois-ci, je pars chez nous. Reste manger la viande. Toi et tes frères. Ça conduit à quoi? À couper les dialogues. N'est-ce pas? Parce que, qui est cet homme qui va encore parler? Et quand je vais lui dire ça, elle va noter. Et quand tu auras des problèmes, il va me rappeler. Eh bien, c'est fini. Plus de dialogue. Vrai ou faux? Oui? Il ne parle plus. Ça peut être des choses de bonne foi. Où on est en train de causer. Mais surtout les femmes rappellent même les heures, les minutes, et les rappellent très bien. Mais aussi les hommes, te rappellent. Dans cette maison, tu comprends. Finalement, tu le comprends. Toi, tu as fait ceci, j'ai fait ceci, tu as fait cela. Ils rappellent même quand on était fiancé, ils n'avaient pas encore oublié. Ils disent, tiens, tu rêvais même à ça. Ah oui, parce que tu exagères. Non, j'ai beaucoup supporté. Non, je peux aussi aller chez nous, tu exagères. Les amertumes, les fautes qu'on a gardées dans les cœurs, qui apparaissent quand tu as divergence de vue, qui apparaissent quand on se tiraille, il ne faut jamais revenir. Dans Isaïe 48, 18, la Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est déjà passé est passé. ça a été bien, ça a été mauvais. Prends maintenant le courage de pouvoir vous retenir. Amen. Amen. Je crois que je vais m'arrêter par là. Les autres points, Dieu voulant, je reviendrai. Parce qu'il est important. Je vais résumer sur le deuxième point que je parlais. La manière de vivre la vie chrétienne dans le ménage. À la cuisine, au salon, c'est là. Nous sommes qu'au salon. Vous voyez qu'au salon, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nous sommes qu'au salon. Je parlais du dialogue et j'ai abordé un peu le pardon. Mais permettez que je dise quand même un mot rapidement. Au salon aussi, il y a la prière. L'homme et la femme doivent prier ensemble et avec les enfants. Beaucoup de fois, ils ne prient pas. Et l'homme là, et la femme dont je parlais, responsable, serviteur, il dit non, nous ne prions jamais. Lui vient, il prie à son temps, à son tour. Moi aussi, je viens, je prie à mon tour. Et beaucoup de gens ne le font pas. Quand vous lisez dans Ecclésiaste 4, 9 à 12, on vous dit que quand il y a deux, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Malheur à celui qui est seul. Si les deux couchent, ils auront la chaleur. La corde à trois fils ne seront pas facilement. Parce qu'il y a l'homme et la femme, puis il y a Dieu au milieu. Priez ensemble, ça vous permet de consolider le dialogue. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a comme problème? Mais le problème des services, nous partageons. Prions pour ça, prions pour ça. Nous qui sommes pasteurs, les problèmes de l'église, même les enfants connaissent, parce que nous devons partager. Mais qu'est-ce que vous avez aussi vu? Non, nous avons papa à l'église, il y a ça. Est-ce qu'on peut prier? Oh, que nous prions. Et nous avons un jour spécialement pour l'église, tous les mercredis avec la famille. Nous sommes là, nous prions. Chaque enfant dit, qu'est-ce que toi tu as vu? Il y a ça. La maman, tu as... Ok, on prie. Du côté de maman, qu'est-ce que vous avez vu? On prie. Du côté de la louange, qu'est-ce qu'on a? Oh, voilà, vraiment, le courant tout le temps est parti. On prie. Nous devons partager. Il faut prier. L'homme et la femme, vous devez savoir pourquoi vous devez prier. S'il n'y a pas de dialogue, on ne sait même pas quel est le sujet à présenter devant le Seigneur. Vous ne connaissez pas vos problèmes. L'homme cache ses problèmes. Oh, j'aime bien quand il y a eu pillage. Il y a quand même un côté positif du pillage. Tous les bulletins de paix que les hommes cachaient, eh bien, avec le pillage, on les a ramassés au marché. Quelqu'un qui se présente là, bulletin de paix, et dit, oh, Ngoï, c'est mon mari. Il vient avec le bulletin. Oh, oh, bulletin, ah, Yangate. Ah, mais c'est ton matricule, dit Yangate. Parce qu'il trompait toujours sa femme. Il dit, mais l'argent que j'ai, c'est pas ça. Il donne un peu. Et les jours que la femme a vu, ici, à qui j'ouvre rapidement une parenthèse. Les hommes, c'est pas possible. C'est qu'il montra à sa femme, même pas un tiers de son salaire. Un jour, l'homme hospitalisé, les amis viennent appeler le mari, pardon, la femme. On est en train de payer, si tu peux passer, prendre le salaire de ton mari. Elle passe, elle prend le salaire. Vous savez, les femmes sont très calmes. J'aime les femmes quand même. Elles sont très calmes. Sont très calmes. Oui, c'est vrai, je vais vous démontrer. Alors, elle a pris l'argent. Elle arrive, l'homme malade à l'hôpital. Où est-ce que tu étais? J'étais parti prendre le salaire. Quoi? Alors, il se réveille. On t'a donné? Oui. C'est où? C'est ça. Oh, mais tu as pris le salaire d'autrui, c'est pas mon salaire. Les hommes. Ah, c'est impossible. La femme n'a rien dit ou a baigné ou calme. Les femmes sont fortes. Quand la femme apprend que tu as une deuxième femme, elle peut s'agiter un peu. Est-ce qu'elle commet des bêtises? Généralement pas. Mais si toi, l'homme, tu apprends qu'il a un mari, quelle est la réaction? Tu la gardes? Ah, ce jour-là, les yeux veulent sortir. Amen. C'est pour vous dire que les femmes sont, elles peuvent bien nous gérer. Et elles nous gèrent bien les femmes. Il faut prier pour elles. Alors je disais que quand il n'y a pas de dialogue, même la prière, il faut partager. Dites-moi la chérie, il y a ceci, il y a cela. La prière ensemble. Pas la prière où l'homme arrive, il se tient. Priez, vous priez. à côté du lit. Puis la femme vient aussi. Mais dit, prions, mais j'ai déjà prié. C'est nécessaire qu'on prie ensemble. Non, frère. Pour demander aux gens, tenez-vous à la main pour prier ensemble. Et c'est nécessaire. C'est pas nécessaire. Mais quand vous avez des rapports, vous ne vous tenez pas. Les rapports là, c'est nécessaire. Mais prier, c'est pas nécessaire. Contradiction. Ou bien c'est les relations qui vous intéressent. La prière, ça ne vous intéresse pas. Et quand on vous les prive, vous dormez comme un lion. Vous ne sortez pas comme on arrive dans Psaume 19. Si là, vous ne sortez pas comme ça, comme un héros. Parce qu'on les a privés. Tout furieux là. Mais tenez-vous seulement à la main pour prier. Mettez-vous à genoux. Nous allons prier pour quoi? On va prier pour ça, pour ça. Toi, tu as quel sujet? Priez pour ça. Nous prions pour notre voisin. C'est nécessaire qu'on prie ensemble. Moi, j'ai mes problèmes, j'ai déjà parlé à Dieu. La prière, elle est importante. La prière à deux. Là, vous vous soutenez. Amen. Amen. Je crois que je vais m'arrêter ici, parce que je vais aller déborder. Et je voudrais simplement vous dire, bien-aimés, si nous voulons revenir à la pensée de Dieu, c'est lui qui a une femme, qui trouve une femme, trouve le bonheur, il faut qu'on retrouve ce point. On n'en a pas tout parlé. Prochainement, Dieu voulant, on pourrait voir le point suivant. Mais avec ça, ça peut déjà nous aider. Est-ce que vous avez le bonheur dans votre choix? Vous avez le bonheur dans votre vie? Dans le mariage, comment est-ce que vous vivez cela? Qui dirige? Est-ce Dieu? Est-ce vous? Ce n'est pas au hasard que je sois venu vous parler. Et ce n'est pas aussi au hasard que vous soyez là. Dieu a un plan pour vous. Ne tenez pas compte des années passées dans le mariage, mais tenez compte de ce que Dieu vous a dit. Nous allons nous incliner à la prière.